Des poches sous les yeux, l'interview, en partenariat avec la boîte à livres.
Alors Martin Vinclair, bonjour. Donc on se revoit comme tous les ans, à peu près à la même époque. C'est comme Pâques, Noël, voilà. Tous les ans on vient prendre de vos nouvelles, vous nous en donnez.
Dans la presse on appelle ça un marronnier. C'est le sujet qui revient tous les ans.
Mais vous êtes notre marronnier en pleine forme. Donc vous arrivez du Québec, vous passez un petit peu de temps en France et vous êtes passé par Tours à la boîte à livres pour rencontrer vos lecteurs, et vous avez accepté de nous rencontrer aussi, donc merci. Donc vous venez parler de votre dernier roman, Abraham et Fils, hein, qui vient de sortir aux éditions POL. Alors pour moi, Abraham et Fils, c'est un peu une espèce de somme de toute votre œuvre. On y reviendra pendant la... Je m'avance peut-être un peu, si vous n'êtes pas d'accord, vous pourrez me le dire, dans lequel vous combinez, comme toujours, donc un plaisir de lecture immédiat et aussi de grande qualité littéraire. Alors moi, tout simplement, je voulais vous demander déjà quel est votre secret, comment vous faites pour que dès qu'on ouvre un de vos romans, on ne le lâche plus. Et puis aussi, quelle est la genèse de ce projet? D'où vous est venue l'idée d'écrire Abraham et Fils?
Le secret en littérature, il n'y en a qu'un. Et évidemment, ça marche différemment pour tout le monde. C'est 5% d'inspiration et 95% de transpiration. C'est du travail. Moi, je donne des ateliers d'écriture à des étudiants à Montréal. Et il y en a plein qui sont extrêmement doués. C'est dégoûtant parce qu'ils écrivent beaucoup mieux que moi. Je n'écrivais à leur âge. Parce qu'ils ont des possibilités plus grandes, parce qu'ils ont plus écrit. Mais c'est toujours du travail, c'est-à-dire on voit très bien que certains ont travaillé beaucoup plus fort que d'autres et donc ils sont beaucoup plus avancés, ils ont des livres qui sont en train de se faire, qui sont beaucoup plus aboutis. Donc il n'y a pas vraiment de secret, hein. Après, chacun écrit avec son expérience, avec son imaginaire, avec ses émotions, et plus on avance dans la vie, plus on a d'expérience, donc plus on peut enrichir les livres qu'on écrit. Moi, je crois que si je n'ai pas publié avant d'avoir 33 ou 34 ans, c'est que mon expérience n'était pas suffisante pour que, en tout cas pour moi, pour que je puisse faire quelque chose qui tienne debout. J'écrivais beaucoup, donc je travaillais beaucoup la construction de l'histoire, je travaillais beaucoup comment exprimer quelque chose par une phrase, mais je n'avais pas encore le matériau. À 33, 34 ans, je l'ai eu, là j'ai fait un premier livre. Après, j'ai acquis encore une fois une expérience à la fois professionnelle et personnelle qui m'a permis d'écrire d'autres livres après. Donc il n'y a pas vraiment de secret, hein. C'est du boulot. C'est comme les peintres, c'est comme les danseurs, c'est comme les musiciens, hein. On travaille. D'abord, on travaille en s'inspirant des autres, et puis après, on trouve ses propres formes, ses propres préférences, et puis on les met en œuvre.
Et alors la genèse de ce projet en particulier?
Alors ce projet-là, j'avais écrit deux livres, après La maladie de Saxe, j'avais écrit deux livres qui étaient des textes, un texte autobiographique qui s'appelle Légende, et qui est en fait qui raconte mon enfance au travers des livres du cinéma, de la radio, toutes les choses qui m'ont aidé à grandir. Et puis un livre qui s'appelle Plume d'ange, qui là est une biographie de mon père et une histoire de ma famille. Et je voulais depuis très longtemps combiner tous les éléments de ces deux livres pour en faire une fiction. Il n'y a pas un livre autobiographique, mais un livre de fiction. Parce que dans ces deux livres, il manquait quelque chose, c'était une exploration de l'époque. Et c'est ça que je voulais faire, je voulais explorer l'époque. Et donc j'ai décidé que j'allais reprendre des éléments, et en particulier des éléments très stables de ces deux livres, qui étaient d'une part ma relation avec mon père, et d'autre part, les lieux où j'ai grandi. Donc j'ai fait une sorte de copie, de copier-coller de la ville de Pithiviers où j'ai grandi et de la maison où j'ai grandi. J'ai inventé la ville de Tillier et la maison de la rue des Crocus. Et j'y ai mis deux personnages qui ne sont pas moi, ni mon père, mais qui sont un père et un fils, que j'ai alimenté justement encore une fois avec mon expérience d'enfant, mais aussi mon expérience de père, puisque maintenant, quand même, j'ai des enfants qui sont adultes. Donc j'ai une certaine expérience. Et puis, en fait, ces deux personnages servent beaucoup plus à explorer les années 60 et un certain nombre de choses qui se sont passées au fur et à mesure du temps dans les années 60 que véritablement à raconter des souvenirs, parce que les souvenirs, je les ai déjà racontés. Là, c'est comment on arrive dans un lieu qu'on ne connaît pas, et comment on apprend à explorer le monde, à explorer ce lieu et puis le monde un peu plus, de manière un peu plus large, de manière un peu exponentielle, tout en gardant une relation extrêmement forte et en créant de nouvelles relations. Donc c'est une chronique de comment on passe de l'enfance pour devenir un adulte.
Et alors, tout à l'heure, vous parliez de la construction de votre livre. Et ici, ce que vous avez souhaité faire, c'est copier un petit peu le modèle des romans policiers, notamment autour de Sherlock Holmes.
Alors oui, un des projets, c'était que je rêvais depuis longtemps de faire une sorte de version moderne de Sherlock Holmes et Watson. Et l'une des idées que j'avais eues, c'était d'avoir en fait des enquêtes qui étaient menées parallèlement par le père et le fils. Et en fait, c'est ce que j'ai fait. Donc dans cette maison, dans cette ville, ils vont tomber sur un mystère qui date de 20 ans, et on va solliciter Abraham pour recueillir des témoignages et essayer d'un peu de faire le tri de tout ça. Et puis Franz, parallèlement, lui, comme il explore la maison et que le mystère est attaché à la maison, et ben il va découvrir des choses comme les héros du Club des Cinq, en trouvant des indices, en allant chercher en ouvrant des placards, en explorant des portes condamnées mais qui s'ouvrent quand même, et en mettant la tête dans des tuyaux, dans les murs, etc., etc., avec une lampe de poche, évidemment, avec une lampe de poche.
Celle qu'on prend pour lire sous la couette aussi.
Celle qu'on prend pour lire sous les couvertures, et avec laquelle on s'endort, et puis qui est la pile s'use pendant la nuit parce qu'on a oublié de l'éteindre. Donc, voilà, donc c'était aussi ça, c'était une manière d'essayer de retrouver comment on s'intéresse à la vie, aux mystères, mais aussi aux histoires humaines, quand on est enfant et que on ne sait pas ce que c'est encore.
Alors, vous nous avez dit tout à l'heure que toute votre œuvre est empreinte d'autobiographie, de biographie, et sauf erreur de ma part, c'est la première fois quand même que vous adoptez le point de vue d'un enfant. C'est-à-dire qu'au niveau du style de l'écriture, vous avez choisi d'écrire du point de vue de Franz, donc ce petit garçon de 10 ans.
Dans ce livre, il y a deux narrateurs. Il y a un narrateur omniscient dont on ne connaît pas l'identité tout de suite, puis qu'on peut deviner au fil des pages, qu'on connaît tout à fait à la fin, qui se révèle tout à fait à la fin. Et puis il y a Franz qui raconte son histoire ou sa perception de l'histoire. Et ça, évidemment, j'ai pas voulu écrire comme un enfant de 10 ans, parce que je ne sais pas comment écrit un enfant de 10 ans. Et d'ailleurs, il n'y a pas d'enfant de 10 ans qui écrivent autant que ça. Mais je voulais raconter comme un enfant de 10 ans, ou comme je me souvenais, moi, que j'aimais à la fois entendre et raconter les histoires. Alors, il y a un travail, effectivement, qui est d'essayer d'écrire de façon simplement, mais pas forcément, simpliste. Il y a un travail aussi que j'ai beaucoup aimé faire, c'est retrouver les mots qu'on disait quand... Quand j'avais 10 ans, les années 60, on ne disait pas une bande dessinée, on disait un illustré. Spirou, c'était un illustré. Bon. Il y avait des tourne-disques ou des pick-up, mais il n'y avait pas de platine, ça n'existait pas. Bon. Donc, il y avait un transistor, et on appelait la radio le transistor quand c'était une radio portable. Donc, ça, c'est très intéressant de refaire ce travail de recherche de vocabulaire. Puisque les vocabulaires qu'on a utilisés à une époque de sa vie sont enterrés par les vocabulaires successifs qu'on a acquis après, et parce que les mots aussi, les mots changent, mais les objets changent, et donc on trouve des nouveaux mots pour de nouveaux objets, et ces objets remplacent des objets anciens. Donc ça a été un travail intéressant que j'ai fait spontanément en cherchant, en puisant dans ma mémoire. Donc évidemment, si vous lisez que Franz dit j'ai ouvert mon illustré et j'ai vu que Michel Vaillant, bon, tout ça, ça évoque quelque chose de très particulier dans le temps, sans avoir besoin d'utiliser un langage spécial. C'est parce que c'est les mots eux-mêmes qui évoquent l'atmosphère. Donc voilà, on n'a pas besoin d'écrire comme un enfant de 10 ans, puisque de toute façon, c'est impossible.
Et alors, cette recherche du mot juste, moi, ça me fait penser aussi à une autre thématique du livre qui est le thème du secret. Mmh. Et notamment le fait que le père, donc on comprend que le père et le fils arrivent d'Algérie suite à un accident dont on ne sait pas vraiment de quoi il s'agit. Et en fait, le père éprouve beaucoup de difficultés à trouver les mots pour dire ce qui s'est passé à son fils. Et alors, c'est très touchant, cette relation entre le père et son fils.
Oui, parfois, justement, comme vous le dites très justement, ce père et ce fils, en fait, ils passent leur temps, et bon, c'est pas très surprenant, parce que c'est quand même, biologiquement, ils ont beaucoup en commun, ils passent leur temps à se ménager l'un l'autre, hein, le fils en ne posant pas de questions parce que ça rend son père triste, et le père en ne disant pas les choses parce qu'il a peur d'attrister son enfant. Et donc, évidemment, quand on n'a pas les mots, ben on ne dit pas, et puis quand on ne dit pas, ben des fois, on construit des secrets. Cela étant, ce que j'ai essayé de faire aussi dans le livre, c'est de parler de beaucoup de types de secrets. Il y a des secrets qui se partagent, mais qui se partagent avec une personne seulement. Il y a des secrets il y a des histoires qu'on n'a jamais racontées, mais qui ne sont pas secrètes. On les raconte parce qu'on n'avait jamais personne à qui les raconter auparavant. Puis un jour, ça sort, et effectivement, c'était un secret qu'on avait deviné sur ses propres parents. Et puis on le raconte à quelqu'un d'autre, et d'un seul coup, l'histoire devient vraie. Et puis il y a des secrets un peu terribles qu'on finit par comprendre, et puis qu'on décide de ne pas dire parce que, contrairement à ce que je croyais quand j'étais adolescent ou jeune homme, la vérité n'est pas toujours révolutionnaire. La vérité est révolutionnaire quand on dit la vérité par rapport à des pouvoirs, mais quand il s'agit de la vie des gens, la vérité, ça peut être extrêmement destructeur, peut remettre en question des équilibres qui sont tout simplement des équilibres dont les gens ont besoin pour vivre. Alors la vérité à tout prix, non, c'est pas forcément quelque chose de justifié. Surtout quand on va faire plus de mal que de bien, et que cette vérité-là ne libère personne. Donc c'était là-dessus aussi que je voulais travailler, sur qu'est-ce que c'est que la vérité, qu'est-ce que c'est que le mensonge, qu'est-ce que c'est... Alors il y a des discussions entre Franz et son père sur est-ce qu'il faut toujours dire les vérités ou pas. Je voulais travailler aussi les secrets, je voulais travailler aussi les sentiments. Hein, c'est l'essentiel du secret, c'est est tourné sur la protection... des sentiments, parce que quand on cache à quelqu'un que quelqu'un est mort, on veut lui éviter du chagrin. Quand on cache à quelqu'un que son origine n'est pas ce qu'il imagine, c'est pareil. Donc au fond, c'est un roman essentiellement sur comment on vit ses sentiments et on les partage ou pas, et tout en continuant à grandir ou à devenir et à vivre avec les autres, quoi.
Alors, vous écrivez donc sur ces secrets de l'histoire individuelle, mais aussi sur ces secrets de l'histoire collective qui renvoient donc au passé, avec notamment donc la Seconde Guerre mondiale et puis aussi ce qu'on appelait les événements d'Algérie à l'époque. Donc vous avez vraiment chercher à créer un arrière-plan historique au sein de votre récit.
Oui, parce que le cycle, hein, puisque donc il y aura 5 romans qui brosseront une sorte de panorama de la France entre 63 et 89, c'est une exploration historique. C'est-à-dire que je voudrais réexplorer toute cette période. Comme je n'ai pas pu le faire auparavant, parce que j'étais soit trop jeune, soit trop pris dans mes propres explorations personnelles, soit pas suffisamment équipé pour la regarder d'une manière un peu critique. Et puis, ce que je voulais, c'était raconter peut-être 25 ans, 25 ans pendant le 20e siècle en France, mais du point de vue des individus et non pas du point de vue des événements historiques spectaculaires. Enfin, si on vous dit 68, tout de suite vous voyez des images de jeunes gens qui lancent des pavés à des CRS, mais 68 c'est aussi bien d'autres choses en France, et voilà, moi c'est ça dont j'ai envie de parler de choses qu'on ne nomme pas parce qu'elles sont masquées par les événements médiatisés, les trucs qu'on a vus au cinéma, etc. Pour moi, les années 60, c'est La Grande Évasion avec Steve McQueen, c'est-à-dire c'est les films de guerre. C'est les films de guerre que j'allais voir au cinéma et qui m'ont appris beaucoup sur quelque chose qui était fini depuis déjà 20 ans, mais qui avait eu quand même une sacrée importance pour la planète. J'ai appris énormément sur qu'est-ce que c'est que la guerre en regardant des films de guerre. Quand voilà, les années 60, pour moi, c'est, alors on le verra dans le prochain livre, c'est l'Angleterre où j'allais l'été. Et c'est un autre monde à quelques heures de train et de bateau. Voilà, c'est pas très loin, l'Angleterre, mais c'est tout à fait un autre monde. C'était ça pour moi les années 60. Mais c'était pas encore les Beatles, les Rolling Stones, etc., que j'entendais vaguement. Mais moi, ça me concernait pas. J'étais pas assez grand pour que ça me... Donc, c'est ça que je voulais faire. C'est cette réexploration en regardant, en ayant deux points de vue. Le point de vue des événements historiques que tout le monde connaît ou dont tout le monde a entendu parler. Puis aussi le point de vue des individus qui les traversent, des fois à leur corps défendant.
Alors, moi, j'ai eu le sentiment aussi en lisant votre livre que vous jouiez avec nous, c'est-à-dire que vous jouiez aussi avec notre mémoire de lecteur. Moi, j'ai vu comme des espèces de petits indices partout qui renvoyaient à vos œuvres précédentes. Alors, je sais pas, la cigarette éteinte au coin de la bouche du père qui renvoie à votre père, notamment dans Plume d'ange, ou le narrateur qui a une mémoire exceptionnelle, comme dans Le cœur des femmes. Plein de petits indices comme ça que vous avez parsemés dans votre roman et qui donnent un côté, je trouve, ludique.
Ben ça, c'est parce que vous êtes une excellente lectrice, Mélanie, et que vous avez lu beaucoup de livres que j'ai écrits. C'est vrai que de toute façon, il y a ces éléments-là. Il y a aussi des éléments du style, tout simplement, des citations de livres, ou de films, ou de téléséries, ou d'événements historiques. Parce que, de toute façon, j'aime, parce que c'est ce que j'aime en tant que lecteur, j'aime établir une complicité avec les lecteurs. J'aime leur dire, nous vivons dans le même univers et nous connaissons les mêmes choses. Alors on les a pas vécus de la même manière, on les a pas entendus de la même manière, mais j'aime dire je suis comme vous, parce que c'est ça pour moi, écrire des romans, c'est me rapprocher des gens que je connais pas, en leur disant finalement nous avons plein de choses en commun, un peu comme quand vous vous asseyez dans un train et puis que ça m'est arrivé une fois ou deux, vous sortez un livre et puis la personne qui est à côté de vous sort le même livre et à ce moment-là vous lisez pas, vous allez vous mettre à parler du livre ou de l'auteur ou ah bah pourquoi vous lisez ça. Donc ce que j'aime c'est trouver les points communs à beaucoup de gens différents, parce que ça crée une sorte de d'écho qui va de l'auteur au lecteur, d'un lecteur à un autre, et puis qui finit par revenir à l'auteur. Je suis un lecteur comme les autres, donc quand j'écris un livre, moi je le lis pas, je ne fais que l'écrire. Et ce qui m'intéresse par exemple, c'est d'entendre ce que les lecteurs ont lu. J'ai la chance d'avoir des lecteurs, mais quand ils me disent ah bah tiens j'ai vu ça, ou qu'ils m'évoquent des souvenirs qu'ils ont eux et que moi j'ai pas ou que j'ai oublié, c'est très très enrichissant pour moi. Donc effectivement, si j'écrivais des choses auxquelles la plupart des lecteurs ne peuvent pas se rapporter, je me sentirais très seul.
Et alors il y a un autre personnage dans votre roman, donc on a le père, on a le fils, mais on a aussi la maison.
Oui, et ben la maison c'est un personnage très important, parce que malgré tout, c'est à la fois le bateau sur lequel on s'embarque, parce que c'est le vaisseau qui raconte l'histoire et sur lequel on navigue, enfin qui emporte l'histoire. Et puis c'est une sorte d'être vivant, puisqu'il y a eu beaucoup d'êtres vivants dans la maison qui se sont succédés. Moi, je me suis toujours demandé, par exemple, je ne sais pas qui a vécu dans la maison où j'ai grandi. Moi, j'en sais rien. Donc à un moment donné, je me suis dit, ben, il faut que j'invente qui est là, qui était là, qu'est-ce qu'ils ont fait là, pourquoi est-ce que la maison est comme ça, est-ce que c'était une maison, est-ce que c'est deux maisons qui ont été collées l'une à l'autre, qui est passé ici, qui a dormi dans cette chambre, est-ce que c'était une chambre d'abord. Moi, j'ai jamais su ça de la maison où j'ai grandi. Alors ben, je me suis dit, ben, allez, allons-y, inventons-le. Et maintenant, j'ai des moyens de le faire, je l'ai probablement imaginé vaguement quand j'étais enfant. Mais j'avais pas les moyens de construire quelque chose d'aussi élaboré. Maintenant, je peux le faire, donc je me rattrape.
Merci la littérature, le pouvoir de la littérature.
Oui, merci l'imaginaire, merci la littérature, merci les lecteurs, parce que si j'avais pas eu de lecteurs à mes livres précédents, j'aurais dû arrêter d'écrire. Enfin, merci. Oui. De toute façon, j'ai personnellement beaucoup de chance. Mais il y a aussi des gens qui m'ont appris des choses. Hein. Le livre est dédié en particulier à Daniel Zimmermann et Claude Pujadronneau, qui sont deux personnes qui m'ont qui sont mes parrains et marraines en écriture, hein, j'ai mangé avec Claude Pujadrenaud la semaine dernière, ils m'ont énormément appris, et eux aussi, ce sont des auteurs tout à fait merveilleux, l'un comme l'autre, qui racontent des histoires épatantes, et voilà, donc c'est aussi une manière de dire... on grandit grâce aux livres des autres, et puis après, on a envie de mettre cet apprentissage, cette expérience à profit.
Alors nous, on a envie de lire la suite. C'est pour quand ?
Alors, si je travaille... Comme je ne veux pas laisser traîner ça pendant longtemps, parce que c'est, même pour moi, ce n'est pas acceptable, en fait, je suis déjà en train de faire toutes les recherches pour le deuxième. Si tout se passe bien, je pense qu'à la fin de l'année prochaine, le livre paraîtra à la fin de l'année prochaine.
Donc on se revoit bientôt.
Donc on se revoit, ben écoutez, oui, je serai très heureux. Si c'est prêt pour septembre ou octobre 2017, ben je serai là à nouveau.
Je prends note. Merci beaucoup Martin Vinclair. Mais... Donc je rappelle que votre dernier roman, Abraham et fils, vient de sortir aux éditions POL. Merci, au revoir.
Au revoir, merci beaucoup.
C'était l'interview des poches sous les yeux en partenariat avec la boîte à livres. Retrouvez cette interview sur radiobeton.com, despochessousleyeux.fr ou encore la page Facebook des poches sous les yeux.